pas si l'anecdote est bien connue, je pense qu'elle l'est un petit peu, pour ce qui concerne ce qu'on a appelé les événements de Tiananmen. Je vous ramène il y a 30 ans, donc on est déjà en 89. Vous vous souvenez sans doute, forcément, même si vous n'avez pas l'âge, de cet épisode de massacre épouvantable sur la grande place centrale de Pékin, où l'armée est intervenue et a écrabouillé à coups de jarres, c'est très sympathique, des milliers, des centaines de milliers d'étudiants qui étaient rassemblés pour demander un petit peu plus de démocratie. Ça a été épouvantable et, particularité, ça a été enregistré et filmé en direct par toutes les télévisions étrangères qui ont été autorisées et même poussées à filmer. Il y a quantité de paradoxes quand on tire le fil 89. Le régime s'est d'abord félicité de cette répression contre des mauvais socialistes qui empêchaient les citoyens de travailler et s'apercevant que ce discours ne passait pas du tout, il est passé à une étape qu'il connaissait mieux, c'est-à-dire silence, on rase gratis, 88, 89, 90, c'est une continuité, il ne s'est rien passé. Bien entendu, les victimes, les survivants, les familles des victimes, les autres étudiants ne l'ont pas du tout entendu de la même façon et se sont précipités sur les réseaux sociaux qui commençaient à l'époque à se répandre, à être accessibles et de plus en plus maintenant, bien entendu, et ont parlé des événements qui étaient censurés. Absolument, blackout total sur tous les médias officiels. Ce que voyant, les autorités ont fait comme partout, moteur de recherche, et chaque fois qu'il était marqué événement, manifestation étudiante, Tiananmen, hop, ça sautait immédiatement. Donc les étudiants ont appelé ça d'abord l'incident du 4 juin. On lui donne un autre nom, on est chez Confucius, si on change le nom, ce n'est pas la même chose. Les autorités n'ont pas tardé à comprendre ce qu'étaient les événements du 4 juin et hop, nouvelle censure. Et dernière étape, et c'est celle qui m'intéresse parce que tout à fait dans le sujet, certains étudiants facétieux, bon ils en avaient gros sur la patate quand même, ont inventé à ce moment-là les événements du 35 mai. Il a fallu un moment aux autorités et aux moteurs de recherche qui n'étaient évidemment pas du tout calibrés pour avoir un 35 mai pour se rendre compte de quoi on parlait. C'est pour ça, de cette façon, comme tout ce qu'on vous présente avait été prévu pour le 30e anniversaire et l'année 2019, je vous propose, le temps de cet après-midi, de considérer que nous sommes aujourd'hui le 62 décembre 2019. Dans le même ordre d'idées, mais là on peut faire un petit peu d'humour, dans le cas des Chinois, c'était de l'humour très 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 noir. Puisque j'en suis à cet événement, vous avez peut-être tous en tête le cliché type de ces manifestations, celui d'un manifestant tout seul devant un char. Alors, si c'est le cliché, on ne le voit pas bouger, mais il y a des images qui essaient de l'éviter. Il y a un conducteur de char qui a essayé de ne pas écraser un manifestant. Rien que pour ça, c'est digne d'être noté. Et il y a ce cliché de ce manifestant et du char, donc c'est complètement immobilisé. Et le monde entier a vu ce cliché, c'est même, ça a été tout de suite symbolique ou synecdotique de l'événement. Or, Adrien Gombeau vient de publier un bouquin qui s'appelle « L'homme de Tiananmen » et qui nous fait découvrir le fait qu'il y avait, en fait, nous avons tous vu 4 photos. Il y avait 4 journalistes avec des téléobjectifs sur le balcon, le dernier balcon de l'hôtel de Pékin, en face, presque en face, et ils ont pris, je vais dire la même photo, ce que nous avons tous vu comme étant la même photo, alors que nous connaissons l'épisode, nous voyons de quoi il s'agit, et qu'en fait, aucun d'entre nous, probablement, n'a vu la même photo. Vous voyez où je veux en venir, 89, pour nous, c'est cet objet diffus qui, à la fois, réunit quantité de choses différentes qui ne se passent pas, même pas forcément en 89, et qui, une fois, comme l'extension de l'univers dans les deux sens, une fois tout rassemblé sous ce drapeau de 89, réexplose dans tous les sens. J'aurais pu... Donc, j'ai fait arriver après de nombreuses discussions au titre au noyau sociogrammatique 1789-89. Noyau conflictuel, comme vous le savez. J'aurais pu, bien entendu, opter pour 89 en lettres, comme Victor Hugo avec 93. C'était même extrêmement tentant, mais un peu vantard de ma part. Ou pour paraphraser Philippe Muret, mais je ne prendrai que ça chez lui, 89 à travers les âges. Ou le moment 89, pour encore piquer mon titre à quelqu'un d'autre. Pourquoi pas, de quoi 89 est-il le nom, ou 89 au pluriel? Ben, j'ai préféré quand même un noyau sociogrammatique. Donc on va s'occuper de ce 89, et en particulier de la principale conséquence de 89. C'est ce que Peter Schneider, mais Pascal Bruckner a repris le nom après. Comment fait-on aujourd'hui pour vivre sans ennemis? Comment se reconstruit le monde alors qu'il était en deux parties et qu'une des deux parties a explosé? On verra dans les détails que ce n'est pas aussi simple que ça, mais c'est ce sentiment. Est-ce qu'on fait comme en Allemagne de l'Ouest, c'est-à-dire on fait disparaître la RDA et on devient l'Allemagne, et on fait comme si on pouvait continuer comme avant? Je pense que ce serait reprendre l'expérience allemande, c'est-à-dire que ça fait 30 ans qu'ils se rendent compte que ça ne marche pas du tout, du tout, du tout comme ça. Alors la première partie, on va faire une première partie avant l'interruption, et avec un certain nombre de lectures de Vélina, je l'ai intitulée 89 où, en cherchant évidemment le paradoxe entre un temps et un espace. Parce que la première manifestation de ce 89 totalement évident, changement de paradigme historique, division du monde qui disparaît, l'impression que la partie gagnante veut donner, à savoir qu'elle est l'aboutissement de l'espace et que le monde entier va finir par suivre. Quelle illusion, mais c'est l'idée portée par ce 89. Il se trouve que ce 89, et même 1789 de façon chronologique, n'a absolument pas le même sens selon l'endroit où on se situe, et de façon très 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 forte. Bon, je parle de ma boutique, pardon, 200e anniversaire de la Révolution française, voire pour les plus jeunes et certains de mes étudiants, anniversaire du 200e anniversaire, parce qu'eux, ils se souviennent surtout des grands défilés de Jean-Paul Goude avec les grandes machines, les éléphants partout. La Révolution elle-même n'était plus à leur programme. Mais ça peut être aussi donc la chute du mur de Berlin pour bien des pays. Mais aussi autre chose pour des tas de pays qui, non, soit connaissent cet épisode de la chute du mur de Berlin, soit le connaissent mais n'en font pas un épisode structurant, soit n'y pensent absolument pas ou ne sont même pas au courant. Je pense pour tout l'Extrême-Orient à l'anniversaire, au centième anniversaire de l'année 1919, qui a été la grande année des premiers mouvements démocratique et des grands mouvements démocratiques au Japon, en Corée, à Taïwan, partout en Chine et même dans le sud-est asiatique, 1919, c'est l'époque moderne qui commence. C'est quelque chose de très lourd. Et tous les neuf qui suivent sont importants. Il y a toujours forcément quelque chose qui se passe en 29, 39, 49, 59. Mais 1919, tous les bouquins d'histoire en Extrême-Orient, volume moderne, c'est 1919. Nous, ce sera probablement la Première Guerre mondiale, quelque chose comme ça. On peut aussi penser au 40e anniversaire de la création de la République populaire de Chine, au massacre de Tiananmen, 30e anniversaire. Dans d'autres pays, c'est le 30e anniversaire de la fatwa de mort prononcée contre Salman Rushdie. Vous voyez, on se décentre tout de suite. Pour vous, malheureusement, l'anniversaire de la tragédie de l'époque polytechnique, dont je ne suis pas sûr, et malgré son horreur, qu'en Thaïlande ou ailleurs, on sache ce que ça représente. C'est le 40e anniversaire du Conseil de l'Europe. Si je disais ça à mes étudiants, ils me diraient de quoi? Donc, ce qui structure pour l'un ne structure pas forcément pour l'autre. Philippe Pons, dans son bouquin L'État guérilla sur la Corée du Nord, signale ce fait-là en disant que même la valeur synecdotique de 89, c'est-à-dire chute du communisme en général et sans doute chute d'un certain nombre d'idées de progrès social, même cela n'est pas structurant pour l'ensemble du monde, loin, 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 très loin de là. On va faire positiviste, c'est-à-dire il y a bien un 89 qui s'est passé en 1789. Et je voudrais que tu prennes l'extrait que tu as choisi pour nous dire concrètement, voilà, tout simplement matériellement, ce qui s'est passé pour toi et que tu as utilisé évidemment de façon fictionnelle, puisque tu as quelque part cette formule que je reprends un peu partout et qui me titille, à savoir le mur de Berlin n'était pas à Sofia.
pour enchaîner directement à. Oui, le mur de Berlin, il n'était pas à Sofia, mais le lendemain, pour nous, là-bas, c'était le 10 novembre, qui a devenu la date le plus emblématique dans notre histoire contemporaine, et notamment, voilà, la fin de tout ce qu'on a connu avant. Alors, ma protagoniste, elle a 13 ans. Et elle croit que Todor Živković, le leader de la partie communiste bulgare, elle le trouve déjà un peu vieux. Elle a bien pensé avant qu'il vaut mieux qu'il prenne sa retraite. Mais là, la date est le 10 novembre 1989 et c'est elle qui vous raconte. Todor Živković a vraiment pris sa retraite. Mais il se trouve que s'il n'y a plus de Živković, il n'y a plus non plus de communisme en Bulgarie. Nous sommes en classe quand la nouvelle arrive et tous les professeurs filent dans la salle de prof pour écouter la radio. Je me dis que nous devons peut-être attendre pour demander à nos parents si c'est vraiment vrai, mais je n'ai jamais vu une telle excitation à l'école. Les élèves grimpent sur les épaules des autres pour retirer les portraits de Živković des murs des classes. Les plus grands élèves enlèvent même leurs uniformes d'école bleu nuit et essayent de les brûler au milieu de la cour avec un tas de livres de classe qui ont été utilisés pour leur laver le cerveau avec le communisme. Le lendemain, tout le monde vient à l'école en jean. De nombreux professeurs, si choqués par cette folie, s'en vont. Nous avons des cours annulés presque toute la journée, alors ça, c'est vraiment très très chouette. Nous participons à la construction d'un feu de joie dans la cour. Plus personne ne nous forcera à porter ces horribles uniformes et à étudier ces stupides livres communistes. Personne n'a plus besoin de foulards rouges, de pionniers non plus. La dernière fois que nous avons dû les porter, c'était le 7 novembre, pour le 72e anniversaire de la grande révolution socialiste d'octobre. Il n'y avait pas d'école ce jour-là, comme toujours, et il faisait gris et froid, et le grand défilé annuel, là où on chantait des slogans louant l'URSS. Nous ne savions pas que seulement quelques jours après, l'URSS ne sera plus notre pays frère. Dans les rues, c'est la fête. Il y a des rassemblements partout, toute la journée. Les symboles socialistes se jettent au bas des immeubles. Tout le monde chante des slogans, cette fois pas pour le communisme, mais pour la démocratie. Cela signifie que la Bulgarie va devenir comme la Corée du Nord, une république démocratique populaire. C'est si chouette. Chaque soir, quelque chose d'excitant se passe. Le peuple se sent libre et l'euphorie est stupéfiante. Le Parti communiste bulgare se divise en deux. Le Parti socialiste bulgare et l'Union des forces démocratiques rouges et bleues. C'est comme si des rues étaient pleines de supporters de football avant un match de l'Evski. C'est qu'à nos équipes rouges et bleues. Grand-maman se plaint sans cesse que tous ces cris dans les rues lui donnent la migraine. Les noms des rues, des boulevards, des parcs, des magasins et des cinémas changent chaque jour. Mon père attend avec impatience le grand meeting de l'Union des forces démocratiques. Art Garfunkel va chanter. Je ne sais pas qui c'est, mais quand je découvre que c'est un chanteur américain, je supplie mon père de m'amener avec lui. La vue est incroyable. Du pont des Aigles tout au long du boulevard Lénine, du parc de la Liberté, qui s'appelle différemment maintenant, mais j'ai un peu du mal à suivre les nouveaux noms. La circulation est arrêtée et il y a une marée humaine, tout le monde agitant des drapeaux bleus de la démocratie. Nous n'entendons absolument rien des chansons de Art Garfunkel. Tant les gens crient à tue-tête, l'atmosphère est incroyable. À la maison, j'ai déménagé tous les vieux meubles socialistes de ma chambre avec le tapis et j'ai jeté tous mes vieux vêtements, uniformes, chaussures, livres, poupées matrioshka, bricoles nord-coréennes et tout ce qui me rappelait du socialisme. J'ai laissé seulement le matelas de mon lit sur le sol à côté de la radio cassette pour que j'écoute la musique. Ma chambre est super comme ça.
Donc, en termes de ce critique, ce que vous venez d'entendre, c'est fictionnel, pas fictif. Mais c'est bel et bien fictionnel, c'est-à-dire avec sa cohérence et sa construction. Cette description, pour prendre le vieux mot, cette description d'une réalité que tu as vécue est en parallèle dans le livre, ça répond en écho dans la dernière partie du livre à la première partie, tout le cœur du livre étant ce voyage extravagant de jeunes pionnières écervelées et nunuches. Et encadré par deux séjours, tu vas reparler tout à l'heure, deux moments bulgares. Le premier qui est un moment bulgare socialiste avant la chute, et ensuite, ce que vous venez d'entendre, la Bulgarie post-socialiste du jour au lendemain. Comme tu le dis dans une formule très souvent, c'est le jour où le socialisme a été mis sur off.
Ouais, qui a appuyé sur un bouton.
Voilà. Paf, ça a disparu. Ce qui est très, très intéressant parce que ça déclenche cette espèce de slogan non dit ou dit aussi qui englobe tous les discours post-89, c'est-à-dire rien ne sera plus jamais comme avant. Pas de retour en arrière. Maintenant, il va se passer quelque chose de nouveau. Le nouveau pouvant être rien de nouveau, on va continuer ce que le vainqueur a fait, ce qui est une autre façon de faire. Et cet équilibre entre les deux donne tout le sens au texte, dans la mesure, parce que c'est bel et bien un travail d'écriture et de fiction, où tout cela est vu des yeux d'une jeune narratrice, tartignole en diable, et Pierre l'a dit tout à l'heure, elle aime tout, elle gobe tout. Donc le socialisme, c'est merveilleux, la Corée du Nord, c'est fantastique, et la chute du socialisme ou du communisme un mois après, c'est tout aussi bien. Pour, en gros, les mêmes raisons, c'est-à-dire elle est structurée de la même façon. Les choses qu'elle aime à chacune des étapes sont les mêmes, avec un contenant un petit peu différent et des choses infiniment plus importantes, comme par exemple l'apparition en vente libre de jeans. Pouvoir porter des blue jeans, c'est quand même.
Aller à l'école en jeans.
C'est quand même la victoire de la liberté. Ouais. Il y a un moment dans le livre où, quand elle est encore socialiste, un mot comme ça, elle se dit si on continue à se développer aussi bien, un jour tout le monde entier sera socialiste, les États-Unis vont être socialistes et on pourra y voyager pour aller acheter des blue jeans. C'est un petit peu monomaniaque. Mais ça en dit énormément sur ce qui, petit à petit, a mité le système de l'intérieur, en dehors de la police, etc. etc. Mais l'absence de marchandises élémentaires. Et parmi ces marchandises élémentaires, il y a des marchandises pas du tout élémentaires, mais construite mythologiquement pour toute la jeunesse de ce pays. Donc c'est un cas précis où 89 a eu lieu, et un pays où 89 a eu lieu, même si 89 a commencé en 87 en Pologne, il a continué jusqu'en 90-91 en URSS. Mais c'est le moment M majuscule 89 qui nous intéresse. Dans d'autres pays comme la Chine que j'ai cité tout à l'heure, la caractérisation du moment 89, c'est d'être un non-moment 89. Je vous ai expliqué qu'on a rasé absolument tout ce qui dépassait et ça ne peut pas exister. Naturellement, dans les représentations populaires, dans les discours plus ou moins formalisés, dans les fictions, 89, et c'est un sujet de recherche, n'arrête pas d'émerger sous des formes déguisées, plus probablement dans le cinéma que dans la littérature chinoise à l'heure actuelle, ce qui peut sembler un paradoxe parce que faire un film sous la censure, c'est quand même un petit peu plus compliqué, un petit peu plus lourd que d'écrire dans sa chambrette et d'envoyer un texte sur Internet. Mais l'écrit est bizarrement beaucoup, beaucoup plus surveillé en Chine et pas seulement en Chine. Peut-être que les censeurs ont toujours un métro de retard. En tel cas, continuons à utiliser les technologies modernes pour les devancer. Troisième cas, et tu vas pouvoir nous lire un petit morceau, je prends celui de la Corée du Nord, mais c'est un des cas intéressant parce que vous savez que si le monde communiste, socialiste, pays de l'Est, satellite, etc., etc., la dénomination et la perturbation terminologique fait partie du sujet, Ne pas savoir comment nommer ceux qui sont censés être nos ennemis, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Vous prenez le mot RDA, la lutte entre RDA et Allemagne de l'Est en français, vous savez tout de suite qui parle en utilisant les deux mots. La Corée du Nord fait partie du tout petit groupe des pays qui se déclarent toujours socialistes 30 ans après 89. Chine, Corée du Nord, Cuba, Vietnam du Nord, non, ça nous vieillit, ça. Pardon, excusez-moi. Vietnam, et pour certains, un petit peu, bon, qui se font oublier, comme le Laos. Ce sont aussi les pays dans lesquels il y a eu une sorte de révolution nationale ou anticoloniale au même moment que la révolution sociale, et il est probable, hypothèse, grand point d'interrogation, il est probable qu'une partie de leur maintien, voire même de leur soutien populaire, parce que ne croyez pas qu'il n'y a jamais de soutien populaire dans les dictatures, pas aussi longtemps. Il est probable que les problèmes sociaux de ces sociétés-là aient été compensés en grande partie par une cohésion et une cohérence nationale, nationaliste. C'est évident dans le cas de la Chine, où la Chine a changé du jour au lendemain. Quel jour? Le jour où l'ambassade de Chine à Belgrade a été bombardée par les Américains. Entre guillemets, par erreur, vous aviez complété vous-même. Et ça a déclenché un raz-de-marée nationaliste en Chine, dont le régime s'est immédiatement emparé. Mais ils appellent ça le nationalisme socialiste. En Corée du Nord, la 89 existe. Il y a 89. Vous vous doutez bien que ce n'est pas la célébration de la chute, de l'effondrement du socialisme dans le reste du monde. Non, c'est le festival mondial de la jeunesse et des étudiants.
D'abord, je vais parler un peu justement sur cette idée de vraiment de situer ce roman que j'ai écrit en bulgare, de le situer en 89, bien documenté avec les dates précises, vraiment comme un journal intime, le 14 août 1989, et voilà. Alors, l'idée d'abord, c'est venu quand on se prêtait à fêter, allez, tous les Bulgares partout dans le monde entier, en 2014, on se prêtait pour fêter le 25e anniversaire de cette date emblématique, le 10 novembre, que je viens de vous présenter en Bulgarie. Alors, partout, les Bulgares se demandaient même sur Internet, sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que vous vous rappelez, ça fait 25 ans, est-ce que vous vous rappelez, qu'est-ce que vous faisiez ce jour-là, quand vous avez entendu la nouvelle, c'est quoi vos souvenirs, alors qu'est-ce qui s'est passé dehors dans la rue? Et voilà, et moi j'ai commencé à fabriquer un peu mes propres fragments de tous ces souvenirs de 89, parce que j'ai derrière dans ma tête des souvenirs très clair. J'étais adolescente, j'étais à l'école. Pour nous, c'était vraiment l'événement le plus incroyable qu'on pourrait imaginer. Alors, je me suis mis à fouiller dans mes journaux intimes parce que j'ai écrit des montagnes, j'ai rempli des carnets pendant toutes les années 80, pendant toute ma scolarité en Bulgarie. J'écrivais tout ce qui s'est passé, mais tout ce qu'on a acheté, tout ce qu'on a mangé, tout ce qu'on a regardé à la télé. Alors les garçons, les filles, la musique, les voisins, les tout. Et la chose le plus étonnante que j'ai découvert dans des vieux carnets et cahiers que j'ai trouvés, c'était un séjour que j'ai fait moi, quand j'avais 12 ans, un séjour en colonie de vacances internationale en Corée du Nord. Ou aussi j'ai tenu scrupuleusement un journal intime, pas très intéressant d'ailleurs, parce que c'était vraiment un séjour lourd d'idéologie. Alors j'ai bien transmis ça dans mon roman, mais du coup il avait quelque chose de... Alors ce voyage, c'était en 86, 87 je crois. Alors qu'est-ce qui s'est passé en Corée du Nord en ce moment? Parmi tous les trucs de colonies de vacances. Alors on se lève, on fait la gymnastique, on mange du riz, on va à la plage, on chante. Voilà. Il avait cette histoire de 89. Alors, cette année 89, écrit dans des grands. C'était quoi le billboards déjà?
Oui, les grands panneaux
Les
dessinés, les
panneaux,
fresques publiques.
presque des fresques. Alors, il avait dans la rue des jeunes souriants avec l'année 89 dessus. Et alors, bien sûr, on a demandé, mais c'est quoi 89? On n'est pas, c'est l'année, on n'est pas encore là, qu'est-ce qui se passe? Alors là, ils nous expliquaient, les Nord-Coréens, nos chefs de groupe, ils nous expliquaient tous. Alors ça, c'est parce que en 89, ici à Pyongyang, il va avoir le festival de la jeunesse et des étudiantes du monde entier. Ils vont venir ici et ce sera le festival le plus grand dans l'histoire de festival mondial de la jeunesse jusqu'à cette date, en 89. Et ben voilà, nous, on est gosses, on est émerveillés par ces deux chiffres, 8 et 9. Et alors, ça se termine pas ici, parce que déjà, tout ce qui a été construit pour accueillir cette jeunesse mondiale à Pyongyang, c'était le plus grand stade du monde entier. L'hôtel le plus haut avec, je ne sais pas, 300 étages du monde entier. Alors, on va construire tout ça. Et il nous ramène les groupes de pionniers de tous les pays socialistes. Ils nous ramènent pour nous montrer des gros trous dans la terre, là où il y a des travaux monstrueux en cours à Pyongyang. C'était l'été, il faisait chaud, il faisait humide. Nous, on voulait aller à la piscine, montrer notre maillot de bain, se coiffer, mettre des garçons. Mais on n'avait rien à foutre avec les trous dans la terre. Mais il nous amenait ensuite dans les salles, peut-être pas climatisées à l'époque, mais au moins à l'ombre, pour nous montrer des maquettes. Alors là, ce trou que vous venez de voir, ne vous prenez pas, c'est important parce que là, ça va devenir, regardez, maquette du stade le plus grand du monde entier. C'est là où on va avoir le festival, là où on va avoir la musique, les danses. Et bien sûr, nous, les gamins en 87, 86, 87, nous on commence à rêver de voir ce festival. Mais ce serait quoi? Mais mon Dieu, mais ce serait un truc magnifique. Et alors, bien sûr, après, on est rentré en Bulgarie, le festival, je ne sais pas, j'avais pas trop suivi à l'époque, mais une fois que je me suis mis à écrire ce roman en bulgare, je me disais, mais tiens, c'est quoi 89? Oui, d'accord, c'est le chute du mur, mais il avait cette espèce de 89 important. Est-ce que ce festival a vraiment eu lieu? J'ai commencé à lire, à essayer de lire tout ce que je peux trouver. Il avait pas beaucoup d'informations. Alors, il avait la plus grande délégation bulgare avec tous les perestroïka punk, heavy metal, jazz, ethno, pop, tous les chanteurs. Il avait la plus grande délégation avec avec toute toutes les représentants de la culture bulgare dans des années 80. En ce moment, ils sont tous partis à faire ce festival. J'ai vu même des photos dans les journaux. Et alors, ce festival, il a eu lieu. Ah oui, il a eu lieu. Et moi, je voulais tellement le décrire. Et je voulais décrire cette espèce de folie que j'ai découvert, que j'ai fait dans des années 80, voyage en camp de pionniers en Corée du Nord. Je voulais le réunir justement avec le chute du mur pour que tout se passe en même temps, pour le documenter ensemble. Et alors, c'est pour ça que j'ai fait comme si ma narratrice a presque vu le festival. Presque. Et alors, elle arrive à Pyongyang en 89, bien sûr, dans le roman. Pyongyang est vraiment belle. Il y a beaucoup d'arbres, des espaces verts avec de belles fleurs, des avenues larges, des trolleybus. Les hommes et les femmes marchent dans les rues en grands groupes. Les femmes portent des longues robes en soie de couleur claire. Les hommes, quelque chose comme des uniformes. Il y a des drapeaux de tous les pays du monde partout. Le logo du 13e Festival de la jeunesse et des étudiants se trouve dans tous les coins avec des tailles différentes. Il ressemble à une fleur avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et une colombe blanche au centre, probablement un symbole de paix, parce que beaucoup de balcons abordent des signes paix, amitié, solidarité et bienvenue, encore dans différentes couleurs. Même s'il est terminé, le festival était le plus grand du monde et son esprit est toujours dans l'air. Des gens du monde entier ont envahi Pyongyang et bien sûr, parmi des larges groupes de Coréens marchant dans les rues, nous voyons les Africains, les Indiens, les Européens. C'est vraiment dommage de ne pas avoir quitté la Bulgarie un tout petit peu plus tôt. Nous avons tout raté. Il avait probablement la musique, des danses, des défilés et plein d'autres trucs chouettes au nom de la paix mondiale. Ça a dû être incroyable. Quelque chose comme notre Assemblée internationale des enfants drapeaux de la paix en Bulgarie, mais pour les grands. Et alors voilà, ça a devenu mon voyage à travers cette protagoniste Alexandra qui a 13 ans. En même temps de voir si ce festival s'est passé, mais zut, elle a encore raté. Comme moi à l'époque, bien sûr. Mais au moins, ça m'a fait joindre tout ce que je voulais, tous mes années de mon enfance socialiste, qui me semble, avec le recul, ça me semble tous les jours encore et encore plus bizarre. Et quand je lis les choses que j'ai écrites à l'époque, je pense que dans le roman, j'ai tout mis. Alors j'ai tout mélangé, tous les petits détails. J'ai jeté tout dedans, justement pour faire 1989, comme un 89 qui réunit.
Mmh, absolument.
Qui réunit tout.
Absolument, on pourra même compléter tout à l'heure en parlant de la façon dont on a ingéré ça dans la traduction. Tenir compte de tous ces éléments. Une fois qu'on traduit en français, il y a des choses qui doivent être précisées, mais qui ne sont pas des notes en bas de page, mais je vais revenir là-dessus. En gros, il faut la remercier, ça nous fait un sociocriticien de plus, le président de la Corée du Nord, qui est un sociocriticien qui s'ignore. Vous, ça ne vous aidera pas parce que vous êtes très nombreux ici, vous êtes la capitale mondiale de la sociocritique. À Paris, il y a une sorte d'épuisement ou de vieillissement des troupes, et puis après, c'est réparti un peu dans le monde. Mais il y a des sociocriticiens qui s'ignorent, c'est-à-dire le régime nord-coréen qui nous donne raison en prouvant que la société représentée, la société des représentations, a horreur du vide. C'est-à-dire que quand on ne peut pas représenter quelque chose, on utilise la représentation disponible, la représentation la plus large. Quelque chose qui n'est pas du tout adapté à l'objet que l'on veut définir, mais qui n'est pas faux parce que ça appartient à un ensemble. J'ai dressé autrefois, je ne donnerai pas la date non plus parce que j'ai pris assez de coups déjà, le sociogramme de l'Asie-Orient. Pourquoi Asie-Orient, Larousse du 19e siècle, Orient voire Asie, Asie voire Orient. Et chaque fois qu'on emploie ces mots-là, on représente une géographie différente, celle de nos colonies par exemple, avec nos chers amis anglais. Qu'est-ce que c'est que le Moyen-Orient? Où est-il? À Paris, un restaurant oriental, c'est un restaurant algérien. Enfin, vous voyez là. Perturbation sociogrammatique, mais typique là, ça en est vraiment, on en est un qui est très très bien. Et je me suis aperçu que ne correspondait aux représentations partielles qui composaient cet ensemble flou, ce sous-ensemble flou, ça ne correspondait historiquement qu'à très peu de pays définis, enfin, nos colonies et celles des copains, on va dire les choses comme elles sont, l'histoire est là, et que quand on n'avait pas d'objet, c'est-à-dire ces pays que ça te fait hurler, que j'appelle les pays qui n'existent pas. La Corée en est un, la Bulgarie en est un, je suis désolé. Je parle de représentation. C'est possible, mais un jour tu comprendras. De représentation, c'est-à-dire de pays qui ne sont pas représentés. Pas au sens de Marx sur l'Inde, les pays qui ne sont pas encore en mesure de se représenter eux-mêmes. Non, non, qui ne sont pas l'objet ici, hic et nunc, de représentation spécifique. On prend les représentations, zoom arrière, plus large. Autrement dit, ce qui fonctionne pour désigner, pour représenter la Corée dans les textes français, ne parle jamais de la Corée de façon précise, mais on prend exactement toutes les représentations qui marchent pour la Chine, pour l'Inde, pour le Japon, pour le Vietnam, parce qu'en gros, ça marche. En termes moins flatteurs, ils sont un peu tous jaunes. Mais ça correspond à ça. Il y a un roman absolument génial d'Echnaux, c'est Envoyé spécial, je crois, le titre. où il envoie une héroïne tout aussi que la tienne, mais en plus vieux, qui est envoyée en espionne comme espionne en Corée du Nord pour séduire le patron des services secrets et le faire passer au Sud. C'est ce truc qui est impossible et incroyable. Et Schnoz n'a jamais mis les pieds en Corée du Nord. On va probablement y aller ensemble parce que maintenant il veut bien y aller. J'ai proposé d'y aller. Et il a travaillé uniquement sur ce qu'il a glané dans les journaux, c'est-à-dire les représentations figées, donc les lieux communs. Les lieux communs, vous savez qu'en sociocritique, ce ne sont pas les clichés nuls des autres, c'est aussi l'endroit où nous passons tous. C'est un lieu qui nous est commun. On ne peut surtout pas mépriser les lieux communs, merci Flaubert. Et dans cette perspective, on s'aperçoit que les représentations mises en œuvre pour désigner la Corée, ce sont toujours absolument systématiquement les mêmes. Certes, c'est valable pour tous les ensembles de représentations, mais c'est valable pour des pays autres, et on le fait fonctionner pour la Corée, parce qu'il n'y a rien de disponible. Et je disais, la Corée du Nord est devenue sociocriticienne, parce que au lieu de fabriquer des représentations que personne n'aurait repris, parce qu'une représentation, c'est une présentation, puis utilisée comme représentante de quelque chose. Il faut que ce soit répété par « on ». On ne décide pas d'une représentation, bien évidemment. Excusez-moi du quasi-pléonasme de ma phrase. Or, ils ont très très bien compris qu'au lieu d'essayer de lutter et de détourner l'attention, ils ont fabriqué 89, à partir de zéro. Ils ont fabriqué le Festival mondial de la jeunesse et des étudiants en 89. Il était prévu un petit peu avant, mais personne ne devait y aller. Et ils ont mis tout l'argent du pays tel que, pendant 15 ans après, ils ont crevé de faim. Vous avez entendu parler de la famine en Corée du Nord. Merci pour eux, il n'y en a plus. Mais ils ont ruiné absolument le pays pour une raison, j'allais dire intelligente, excusez-moi, c'est vraiment le mot, mais politiquement intéressante, dans la mesure qu'avec le 89 coréen, ils ont répondu à deux questions. 89, c'est la suite de 88. Qu'est-ce que c'est 88 en Corée? Ce sont les Jeux olympiques en Corée du Sud. Et la démocratisation en Corée du Sud, forcée par les Américains et l'Europe, pour une fois pas trop mal, a dit, si vous voulez les Jeux olympiques, votre dictateur, vous le rangez. Et donc, il y a eu des élections où le bras droit militaire du dictateur a été élu. Donc, c'était une démocratie. La Corée du Nord répondait à ça en disant, la Corée du Sud est sur la carte. La vraie Corée, c'est moi, je dois être sur la carte aussi, je fais ça. Et du coup, en répondant à 88, dont tout le monde se fichait royalement dès le lendemain, ne va pas me dire que tous les visiteurs qui sont allés en Corée pour voir courir des athlètes drogués derrière eux, ils sont allés pour découvrir la culture coréenne du XIIe siècle. Ou alors j'ai tout faux, et vous pouvez me jeter des objets contondants avant la fin de la séance. Et du coup, en répondant à 88, ils ont répondu à 89. Et aujourd'hui, en Corée du Nord, tous les ans, on célèbre l'anniversaire du Festival mondial de la jeunesse et des étudiants. La dernière fois que j'y suis allé dans le grand stade, évidemment le plus grand stade du monde, construit à l'époque, 150 000 places, quand on n'a pas à bouffer, c'est une bonne idée. Et on est allé voir des célébrations, tout à fait rigolotes d'ailleurs, pour célébrer quoi? Le 30e anniversaire d'un festival complètement foiré. Et tous les Coréens le savent. C'est là où ça devient intéressant et c'est là où ça reste un pays socialiste à l'ancienne, même si je doute que ça en soit un, quel que soit le critère utilisé. Les leurs, les nôtres, la critique, marxiste, pas marxiste. Dans tous les sens du mot socialisme, la Corée du Nord, c'est une savonnette mouillée. En l'occurrence, cette espèce de double discours de l'existence dont tu m'as parlé 100 fois, où on dit une chose à l'extérieur et puis à l'intérieur on dit d'autres choses, c'est très valable en Corée du Nord. Je viens de lire le bouquin d'une fuyarde de Corée du Nord qui, pour une fois, est un livre authentique. Parce que si vous voulez lire des faux, vous pouvez y aller. Vous pouvez même en écrire. Ça marchera très bien. Vous ferez comme Echnoz, vous prendrez tous les lieux communs et vous en ferez un livre et ça marche très très bien. Ce sont les mêmes. C'est ça un sociogramme, c'est ça qui est intéressant. La façon de faire fonctionner cet ensemble est fondée sur le fait que dans la vie sociale des Coréens, de toute façon, pour la moitié de la vie sociale, quoi qu'on leur dise, ce sera fait selon une langue, au sens de novlangue, qui est la leur. Ils sont bilingues. Ils sont bilingues bureaucrates coréens. Ils savent parler le coréen extérieur. Et ça peut aller jusqu'à un grand écart absolument ahurissant. C'est toi qui en parlais. Todorov, Zlatan Todorov, m'a dit un jour, on parlait que ça du poste.
En bulgare.
Donc, le grand critique bulgare que vous connaissez, mais vous connaissez un petit peu quand même. Enfin, Todorov et Kristeva sont les deux joyaux de la couronne. Vous ne touchez pas, s'il vous plaît. Vous dites que vous avez un titre de sociocriticien d'honneur, ce qui, Todorov, ça le tuera une deuxième fois, mais voilà. Elle dit un jour, il me racontait ce qui se passait, il se demandait quel lien il avait encore avec le pays et tout, et il était très très distant avec ça. Mais il me parlait de cette vie quotidienne, et il venait de rencontrer la veille un copain d'enfance qui était vice-ministre des travaux finis ou un truc. Bon. Enfin, un grand bureaucrate, et à qui il reprochait d'être un bureaucrate stalinien, d'écraser le pays et tout. Bon, peut-être que la conversation était un petit peu moins critique que ça, mais c'était sa version. Et il lui rentrait dedans en disant « Mais t'as pas honte de faire ça ?» Et l'autre lui a répondu, voilà, c'est la phrase de Todorov, « Mais il vaut mieux que ce soit nous que eux. » La quantité de « eux », ça faisait quand même peut-être trois pro-soviètes dans le pays. Puisque même les dirigeants du régime eux-mêmes s'abstraient de cette obligation. C'est eux-mêmes étaient en double discours par rapport aux règles générales du camp socialiste. Il vaut mieux que ce soit nous que eux. Enfin, c'est pas. Moi, je suis toujours resté avec cette phrase en me demandant de quoi il parlait. Je te rends la parole. C'est l'introduction réécrite de la version française de Red Shorts, dans laquelle tu te places effectivement, où c'est, pour moi, c'est la première fois que tu parles de 89.
Alors, en français, parce que mon introduction dans la version française qui sort aujourd'hui. Là, on a zappé un paragraphe, Patrick, excuse-moi, je vais vous la lire en anglais, la première paragraphe de cette introduction. Qui parle des shorts rouges. Voilà. The red shorts belong to my mother. There was a pale old Technicolor photograph in a desk at home, where she is a blonde skinny kid of no more than 12, wearing these beautiful bright red shorts. Et là, ça commence ma traduction validée par Patrick en français. C'était une époque étrange dans la Bulgarie socialiste quand j'étais enfant. Les voitures avaient l'air de voitures de dessin animé. L'apparence et l'odeur des cosmétiques n'étaient pas très attirants. Selon le modèle soviétique, le samedi était travaillé, même pour les écoles, et les policiers s'appelaient les miliciens. Les vêtements et chaussures de qualité et de belle allure n'étaient pas souvent vendus dans les magasins. Les produits fabriqués en Bulgarie étaient moches pour le moins. Les rares importations apparaissaient et disparaissaient sans laisser de traces, parfois avec de crépages de chignon entre clientes. Mais les femmes bulgares réussissaient quand même à paraître chic pendant le socialisme. Tissus, boutons et couturières étaient faciles à trouver. Et les rares exemplaires du magazine Burda, venus d'étrangers, donnaient un aperçu précieux de la mode occidentale et donc susceptible d'être reproduit. Les oranges et les bananes étaient emportées vers le nouvel an et les queues de ceux qui voulaient en acheter étaient si longues qu'on pouvait attraper un rhume sans même obtenir les fruits désirés, tant les quantités étaient limitées. Il avait une seule marque de chewing-gum, sans couleur, sans goût, qui s'appelait Ideal. Le lait était non pasteurisé et vendu dans des sachets en plastique qui ressemblaient à des oreillers pleins de plumes d'oie, mais il fouillait toujours. Le lait devrait être bouilli avant consommation, et pour en améliorer le goût et nous le faire boire, les adultes le mélangeaient avec de la poudre de cacao et du sucre. Le sucre se dissolvait, mais le cacao faisait des grumeaux amers qui se mêlaient à la peau du lait. Nous rêvions de Nesquik et de Nutella, de Corecom, le magasin en devises qui vendait des produits de l'Ouest, mais les devises n'étaient pas facile à obtenir. On peut douter que les choses étaient censées de se passer ainsi dans une société idéale communiste. Mais en été, alors que j'ai eu moi-même à peine 12 ans, j'ai vraiment voulu porter des shorts rouges comme ceux que portait ma mère sur cette photo. Elle m'a amené faire des courses, mais évidemment, nous n'avons rien trouvé d'approchant nulle part en ville. Alors maman m'a aidé à piller tous les armoires de la famille et à coup sûr, nous avons trouvé la paire de shorts rouges. Ils étaient en bon état, je les ai portés continuellement pendant des années. Ils étaient toujours rouges, comme un souvenir qui ne pâlit pas. Je les ai gardés jusqu'à ce jour, c'est un héritage. J'en ai en sorte les hérités comme j'ai hérité la vie et les luttes quotidiennes du pays dans lequel je suis née. Le socialisme était un système, mais les nations qui vivaient sous lui étaient habitées par des gens ordinaires dont les histoires personnelles grésillaient sous la surface idéologique. La perestroïka a apporté quelques changements bienvenus, puis la chute du mur de Berlin en 89 est devenue une sorte de ligne de démarcation sur laquelle les fantômes de nos rêves d'un futur lumineux continue à flotter. La liberté avait un goût si doux et nous nous sommes plongés dans le grand monde qui s'ouvrait à nous, mais plus le temps passe, plus ces souvenirs reviennent nous hanter. Nous continuerons éternellement à célébrer l'anniversaire de 1989. La Bulgarie aura toujours vécu une période socialiste dans son histoire. Et tenter de ne pas se souvenir de ces étranges images, vraies ou fausses, scénotoxiques, drôles ou tristes, ne les fera pas disparaître. Le passé ne reposera pas en paix si nous n'en parlerons pas. Merci.
Donc, deuxième partie, après 89 ou 89 quand, c'est quand même que ça arrive, on va fonctionner de la même façon, peut-être un petit peu plus séparé, plus deux blocs dans la deuxième partie. Donc, d'abord le linéaire. 89 a ce côté pratique. Donc 89, la partie des noyaux conflictuels, c'est 89 joue un rôle discursif très très important dans la fabrication d'une vision linéaire de ce problème, avant 89, après 89, et aucune discussion, aucun caractère conflictuel, aucune dialectique derrière ça. C'est vrai, un avant fini, terminé, fort clos, dont on espère ne rien revoir, et un avenir qui était ouvert sur un non-dit ou une façon de faire en sorte que l'après 89 fasse en sorte qu'il n'y ait plus jamais d'avant 89 ou d'un retour de l'histoire à un moment quelconque. Plus jamais cet avant 89. Or, Vélina vous l'a dit tout à l'heure, et elle avait tout à fait raison, la Bulgarie a été socialiste, et même si c'est terminé, elle aura toujours été socialiste pendant 45 ans. À lire et à entendre ou à voir tout ce qui concerne 89, et cette année il y a eu pas mal de choses en France. Je dis pas mal de choses parce que si on fait attention, on en trouve, mais j'ai trouvé ça très 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 maigrichon comme célébration par rapport à l'importance de l'événement, y compris de façon nombriliste française habituelle. Même en disant 89 chez nous, où en gros le mur de Berlin c'était à Paris, version française des choses, même de ce point de vue-là, franchement, j'ai trouvé ça très très mou. Il y a eu pas mal de documentaires fabriqués à la va-vite où on voit des soldats est-allemands marcher au pas et montrer que quelques années avant, ils marchaient au pas sous le drapeau nazi, tout cela n'étant valable naturellement que pour la RDA et absolument pas pour la RFA, qui n'était pas en Allemagne avant la guerre, bien entendu. L'entreprise de réécriture de l'histoire est absolument massive et de négation même. Le noircissement systématique du passé, donc je précise bien tout de suite que le noircissement du passé n'a rien à voir, malheureusement rien à voir, avec la noirceur du passé. C'est pas du tout la même chose. La façon d'écrire le passé ne peut ouvrir qu'à des questions elles-mêmes linéaires. Avant 89, c'était le socialisme, ok ? Et avant le socialisme, c'était quoi ? Pourquoi n'y aurait-il de problème que de ce passé socialiste et pourquoi ne resterait-il rien de ce qu'on appelle un peu trop facilement, quand on n'a pas trop fait d'histoire, les racines de la bulgarité. Les racines de la bulgarité, elles ont 45 ans et rien ne s'est passé avant. Donc l'histoire de la Bulgarie, c'est 45 ans plus 30 ans. Ça me semble un petit peu curieux comme façon de voir les choses. Que reste-t-il même d'ailleurs de ce socialisme s'il en reste quelque chose? Est-ce que tous les problèmes de la société actuelle viennent de là? Est-ce que c'est à cause du socialisme qui fait froid en hiver? Je prends des exemples un peu extrêmes, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Est-ce qu'on peut un jour arrêter de penser linéairement? Moi, il me semble que pour ce qui concerne la sociocritique, on n'est pas, nous ne sommes pas en termes non représentés. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la nature représentative a horreur du vide. Et je suis frappé de plus en plus, chaque fois qu'il s'agit de questions transnationales, ce qu'on appelle un petit peu trop rapidement, ou je vais dire sans assez de définition, les questions géopolitiques, par la coïncidence entre sociogrammatique, entre le post-socialisme et le canevas sociogrammatique disponible, qui est le post-colonial. Et le lien entre les deux me semble, les liens entre les deux, y compris contradictoires, me semblent de plus en plus évidents. Je suis bien conscient que la notion de post-colonial est très 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 différente selon les pays. On en a encore un avant, qui était le post-moderne. Alors historiquement, ils ne sont pas arrivés dans cet ordre-là, dans chaque pays, et dans chaque culture, et dans chaque ensemble intellectuel et de recherche. Et d'ailleurs, chacun lui a donné une acception, quelquefois très 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 notablement différente. Petite parenthèse pour la Corée du Sud, j'en ai un avant qui est le structuralisme. Il est post-rien, c'est nous qui sommes des post-structuralistes, mais en Corée du Sud, pendant toutes les années de dictature militaire, on a appelé structuralisme tout ce qui était anti-dictature militaire et globalement le marxisme. Mais comme le mot n'était pas prononçable, on appelait ça le structuralisme. Ce qui perd un petit peu quand on s'occupe du vrai structuralisme et qui était aussi compris et utilisé et qui a eu une très très forte influence. Même chose avec le postmoderne qui a fait un triomphe, qui a absolument dévoré tous les intellectuels sud-coréens, sans aucun rapport avec la disparition des grands récits. J'aurais peut-être une seconde pour en parler. Aucun rapport avec la disparition des grands récits. Post-moderne, ça voulait dire prise en compte des éléments de la technique moderne, du chemin de fer jusqu'à la 5G. Enfin, ils sont en avance sur nous, donc j'ai toujours eu l'air complètement à côté de la plaque. Tous ces éléments-là, mais arrivés en Extrême-Orient, et en particulier en Corée, dans un laps de temps extrêmement court. Pratiquement tous ensemble. À l'échelle de l'histoire, pratiquement tous ensemble, là où en gros, depuis nos premiers bourgs et nos communes bourgeoises du Moyen-Âge, 8 siècles écrabouillés en 60 ans. Et le postmoderne sud-coréen, c'est penser en gros des ingrédients identiques, évidemment pas identiques, mais ces mêmes choses techniquement dans l'extrême-orient et l'extrême-occident, pour prendre le titre d'une revue de Vincennes, enfin, Saint-Denis, Paris 8, la terminologie, c'est terrible. Cette contraction dans le temps amène à penser chacun de ces éléments et les relations entre ces éléments de façon complètement différente. On n'arrive pas du tout, du tout, du tout au même résultat. D'autant que il s'agit d'un pays dans lequel le moderne, dans notre sens, n'existe pas. Alors, moderne, noyau sociogrammatique du moderne, c'est le moderne et la critique du moderne en même temps. Il n'existe pas un élément technologique issu de la technologie dans la pensée, je vais dire française, mais ça, pas ailleurs, partout ailleurs, qui arrive dans la société et qui ne soit pas pensé en même temps comme un plus, je serai un surhomme grâce à la grande machine qui va soulever 25 tonnes, moi je ne peux pas, et en même temps moins, c'est-à-dire un sous-homme, parce que je suis déshumanisé par cette technique. Tout ce qui entre dans la société moderne est susceptible d'un double discours et d'un double discours entrelacé. Il en va de même pour le postcolonial, et ce postcolonial sert d'élément fondamental, de canevas, vraiment de canevas, au post-socialisme pensé tel qu'il est en Extrême-Orient. Et quelle est la caractéristique première? C'est le refus de le penser. C'est-à-dire l'affirmation permanente que c'est là, mais qu'il n'y a rien à en dire. Exactement comme le post-colonial en Corée du Sud, C'est la même chose à Taïwan, c'est la même chose dans beaucoup de pays d'Extrême-Orient. L'époque coloniale est ressassée, racontée toute la journée à l'école pour réinjecter une petite dose de nationalisme tous les matins, comme saluer le drapeau. Donc c'est là, mais en même temps, ça n'a eu aucun effet. Ils ont été méchants, ils nous ont coupés en rondelles, le colonialisme japonais a été épouvantable et absolument épouvantable. Est-ce qu'il y en a eu qui ont été épouvantables? Je ne sais pas. Donc bon, il était particulièrement ignoble. Et en même temps, ça n'a rien touché à la coréité. Nous sommes restés coréens, notre culture n'a pas bougé, notre langue n'a pas bougé, et à quel point la langue dans les pays de l'écrit et des sinogrammes, c'est important, rien n'a bougé. Si vous dites à un Nord-Coréen que les racines de sa société moderne, vous savez, le fameux miracle coréen, bon, pour les journalistes un peu pressés, si vous dites que bah, tout ça a été créé, pas par les Japonais, mais à l'époque japonaise, et c'est très 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 difficile de prouver le contraire, vous risquez gros. Je suis passé très très près souvent d'un gros bourre-pif, y compris avec des profs dans ma fac, dans des réunions. Imaginez une seconde que le post-colonial contienne du colonial, en quelque sorte. Il reste que du post, c'est quelque chose d'insupportable et d'inaudible dans les pays post-coloniaux. Alors, nier le caractère post-colonial du pays du côté du colonisateur, comme la France, c'est déjà un problème. Nier avoir été colonisé dans des pays qui manient très facilement tout le côté de l'excuse, même que le discours national est un discours victimaire. Tout ce qui va pas, c'est pas moi, c'est à cause des autres. Et là, les Nord-Coréens sont des champions absolument fantastiques. Ça marche, c'est coréen, ça marche pas, c'est une intervention étrangère. On a même été dans toutes les Corées, mais en Chine aussi et au Japon, à inventer une formule qui est l'interruption du cours naturel de l'histoire. L'intervention du cours naturel de l'histoire. Je donne ça aux historiens pour qu'ils s'amusent un petit peu pendant le week-end. Cours naturel de l'histoire, bon. Qu'est-ce que c'est que l'intervention du cours naturel de l'histoire? C'est une intervention étrangère. Et ça, en Chine et en Chine aujourd'hui encore, cela explique une grande partie de l'attitude politique chinoise. Et sur ce point-là, la population, alors la population, je ne suis pas là, je n'ai pas de documents, mais l'opinion publique chinoise suit absolument le discours officiel. En Corée du Sud, c'est tout aussi fort. Et comme d'habitude, en Corée du Nord, c'est à prendre des dimensions totalement artistique, tout en demandant où on peut se trouver des jeans étrangers et des chewing-gums avec des couleurs. L'un n'empêche pas l'autre, on est humain. Donc, le lien avec le post-communisme me semble marqué par ce canevas, à savoir que communisme, il y a eu, mais on s'en débarrasse. On laisse sur le dos du communisme ou du socialisme, terme interchangeable ici, tous les problèmes du pays, y compris encore maintenant, mais pour le reste, c'est une vulgarité, et c'est valable pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays ex-socialistes, où en quelque sorte, on retrouve le cours historico-culturel du pays. Il a été interrompu artificiellement par le socialisme de type soviétique, donc le socialisme importé, mais ça y est. On remet les choses en place. Dans ton extrait tout à l'heure, tu parlais des noms de rues qui avaient changé, où on retrouve tous les noms anciens qui reviennent, y compris des tas de trucs à l'orthodoxe, ça machin, ça truc. Je ne vais pas m'amuser à prononcer les noms, je ne pourrais pas trouver mon chemin tout seul à Sofia avec ma prononciation. Et ce lien entre les deux me semble très fort et permet de fonctionner. C'est-à-dire que la non-discussion, le caractère non-critique, non contradictoire, non antagonique du discours sur 89 et avant, est facilité par la place prise avant par le discours non critique sur l'époque coloniale, etc., etc. On remonte dans le passé comme ça. Et donc, mon interrogation, ce qui est d'ailleurs valable pour des tas de pays non socialistes ou non ex-socialistes, pour quantité d'ex-dictatures qui se sont mises en place comme ça du jour au lendemain. Je voudrais savoir quelle est la proportion des gens qui s'appellent eux-mêmes les élites et qui ont changé de place en Espagne, avant la fin de Franco et après la fin de Franco. Je suppose qu'il y en a deux, trois qui ont été trimballés devant les tribunaux, mais les patrons de banque et autres, je pense, j'ai pas entendu dire qu'ils vivaient une vie extrêmement malheureuse. Ce qui ouvre un certain nombre de questions qui portent même sur, enfin, qui devraient ouvrir à des questions qui portent sur la nature de ce socialisme. Qu'est-ce que c'était? C'est 45 ans de socialisme, même si c'est pour planter dessus une croix, un piquet et de l'ail. Je veux dire, si c'est le Dracula, Léonide Dracula. Même si c'est pour en dire pique-pendre, il y a des questions qui devraient en sortir, qui sont des questions, me semble-t-il, de base, pas élémentaires, hein, ça n'a rien de simple. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire le mot socialisme quand il est, comme dans le cas de la Bulgarie, importé, imposé de l'extérieur, dans les bagages d'une armée, éventuellement libératrice, on parlait du monument, mais après cette libération, le type de régime a été importé. Qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir socialiste ou un pouvoir du peuple quand le peuple ne choisit pas son pouvoir? De la même façon, qu'est-ce qui se passe dans des pays, et c'est absolument systématique quand on fouille un petit peu, où on s'aperçoit que la première génération de communistes, majoritaire ou pas majoritaire, soutenue par les soviétiques ou pas soutenue par les soviétiques, ont formé des directions, des comités centraux, alors je mets singulier pour faire des fois le comité central, ont été très rapidement tous liquidés par le régime lui-même. Au bout de 5 ans, il ne reste, 53-55, il ne reste pratiquement plus aucun dirigeant d'origine, Slansky et autres. Troisième question, qu'est-ce qu'on peut penser alors de l'unanimisme politique? Qu'est-ce que valait l'unanimisme politique exigé par le régime, le double discours dont je parlais tout à l'heure? Qu'est-ce qui se passe quand tout le monde dit la même chose en public et personne ne dit la même chose en privé? Qui est responsable de quoi? Quel est le régime qui a provoqué cela et comment cela pourrait-il s'appeler? Vélina rappelait tout à l'heure que vous étiez tous allés célébrer le, alors je sais plus lequel, anniversaire de la Révolution d'octobre, quelques jours avant, c'était début novembre, la descente dans la rue, la dissolution du Parti communiste, l'enlèvement de tous les portraits de Divkov et autres, les mêmes qui étaient dans la rue quelques jours avant avec les portraits de Divkov. Et plus encore, et ça, tes bouquins en parlent, qu'est-ce qu'il y a de communiste? Retournez la question pour avant 89, mais qu'est-ce qu'il y a de démocratique? La question est exactement la même, c'est le drame. Qu'est-ce qu'il y a de démocratique de la part d'élites qui sont restées les mêmes avant 89 et après 89 très largement, à part peut-être une petite couche de nationalisme en plus et sans doute une belle petite dose de mafieuserie. Selon les pays, c'est évidemment extrêmement différent. Ce qui est intéressant quand on pose toutes ces questions, c'est de prendre en compte l'extraordinaire perturbation terminologique, pour le moins terminologique et ensuite éventuellement conceptuelle, la perturbation à laquelle le 89 a donné lieu. Il y a des choses qui étaient déjà anciennes et préparées, par exemple l'impossibilité de dire en public qu'on n'est pas démocrate, ou l'impossibilité de dire en public qu'on est pour le totalitarisme. Je ne pense pas que tous les gens qui s'affirment démocrates soient des démocrates parfaits, sauf nous, évidemment, bien sûr, on est toujours comme ça qu'on parle. Quant au totalitarisme, c'est le régime des autres, pour paraphraser une vieille formule. Et en s'interrogeant à ça, on s'aperçoit que l'espace social, aujourd'hui, est marqué d'une extraordinaire liste d'obsolescence, programmée ou pas, de termes qui sont en cas de coma dépassé pour une bonne partie d'entre eux et qui ne sont plus utilisables sans conditionnel, présentation, ainsi nommé, prétendu, etc. Communisme et socialisme pour commencer. En tant que terme interchangeable, l'internationalisme passé aux pertes et profits, c'est pas forcément un mot plus affreux que nationalisme, me semble-t-il. Prolétariat, il n'y a plus. C'est pareil, il a disparu du jour au lendemain, où ils ont tous été promus. Les pays frères, j'en parle pas. L'impérialisme lui-même, qui pouvait concerner par ricochet l'URSS, mais qui concernait d'abord les États-Unis, du jour au lendemain, ils ne sont plus impérialistes. Les Syriens, les Libyens et les Irakiens le savent. Le capitalisme même, en tant que mot, a été l'objet de manipulations très grandes. Et dans 99% des cas en France maintenant, on emploie le mot libéralisme, ce qui veut dire rigoureusement la même chose, avec l'adjectif sauvage quand il n'est pas bien. Mais vous pouvez tirer sur la ficelle. La planification, la lutte des classes, qui a disparu du jour au lendemain et qui n'est réapparu, je ne sais pas si c'est l'Express ou le Point, la semaine dernière, avec le titre Le grand retour de la lutte des classes, est dû aller se promener, j'imagine. Tout ça parce qu'on a eu les gilets jaunes et qu'on est, d'après la télé ce matin, au 60e jour de grève des transports en France, la plus grande grève de l'histoire. Oui, il y a des prolos, ils sont pas contents. Mais ils étaient priés de ne plus faire les malins. Taisez-vous parce que, comme disait mon prof tout à l'heure, le mur de Berlin est tombé, comme je vais en parler maintenant. Le parti, la propagande, le réalisme socialiste, les pionniers. Et, intéressant au bout de la file, pour nous universitaires, la théorie elle-même, la conceptualisation, la mise en forme théorique d'un discours qui passe aujourd'hui pour un dogmatisme échevelé, en gros, les marxistes et leurs épigones qui fabriquent des théories inhumaines et hors de la société. Et j'ai déjà un tout petit peu annoncé, quand je suis entré à l'INALCO, on s'est réunis, quelques profs, pour faire un centre de recherche de littérature. Au bout de 200 ans d'université, il était un petit peu temps. Et donc, on s'est réunis avec des langues aussi zerbies que le coréen, l'iranien, le thaï, etc., pour faire ce centre de recherche. Donc, chacun a parlé de son petit truc, chacun a parlé de sa langue, sa culture, son pays. Ça s'appelait un groupe de recherche. Bon, chacun faisait un groupe de un. C'est pas trop problématique pour la discussion. On est assez d'accord avec soi, on peut ne pas être d'accord, et puis à la fin, on se met d'accord. Et je me suis permis de dire, est-ce que pas, est-ce qu'on a en commun? Parce que si ce que vous voulez faire, c'est de la littérature comparée, pas avec moi. Parce que la comparaison de texte à texte, j'ai pris pour l'agrégation, j'ai comparé Euripide à Antonin Artaud, ça va, j'ai pris pour une fois, je ne recommencerai pas. Et surtout de texte à texte en plus. Donc est-ce qu'on pourrait pas réfléchir à une sorte de cohésion, à défaut de cohérence théorique entre nous. Et un petit monsieur qui était devant moi, qui a une très très belle carrière universitaire après, m'a dit, en me regardant de haut, enfin de bas, Monsieur, le mur de Berlin est tombé. Je suis quand même content de dire que la totalité des autres enseignants présents a éclaté de rire. C'était le minimum. Et je me demande aujourd'hui si ce qui les a déclenchés était cette haine de la théorie qui découlait de tous ces énormes changements et qui s'appelle aussi 89, ou bien le fait d'appeler un de ses collègues monsieur. Je crois que c'était encore plus transgressif, mais ce qui montrait bien dans quelle zone de mépris j'étais marqué, un gars qui fait de la théorie ne peut plus faire partie de notre monde. On ne réécrit pas l'histoire sauf pour la maltraiter. Et il n'est jamais, jamais, jamais question de revenir en arrière sur quoi que ce soit. Pour te laisser la place, il y a une victime, pas nécessairement collatérale, qui peut très bien avoir été réfléchie pour être une victime, me semble-t-il, qui se traduit par l'affaissement du sociogramme, du progrès lui-même, de la pensée elle-même du progrès. Alors, si on prend comme noyau conflictuel progrès avenir, c'est-à-dire le progrès étant l'avenir plus, l'avenir qui dit quelque chose, l'avenir qui emmène quelque part, et pas simplement le demain de la chronologie ou du calendrier, il y a là un noyau conflictuel extrêmement fort. Et au minimum, à minima, on note un affaiblissement considérable de tout ce qui constitue ce sociogramme, de tous les termes, idées, concepts, représentations partielles, ce qui nous emmenait dans l'avenir avec un sens quelconque, quel qu'il soit. J'avais commencé la liste, mais elle pourrait être infinie et vous pourriez la faire vous-même sans aucun problème. Mais tout ce qui est temps, futur, chronologie, étape, siècle, période, changement, demain, c'est-à-dire la partie avenir du sociogramme, se maintient avec en face un affaissement colossal de tout ce qui est avenir avec du sens direction et du sens signification, le double sens du mot sens. Que ce soit le progrès lui-même, le plan, le programme, l'avenir quand il est radieux, la fin de l'histoire, tout le vocabulaire qu'on a vu dans tous les journaux révolutionnaires du monde, l'aurore, l'étincelle, l'aube, autant que leur contraire éventuel, mais qui nous mettait quand même dans l'avenir vu de façon totalement négative, mais pensée, comme la faillite, le naufrage des valeurs, l'horreur sans fin et la fin effroyable dont parlait Engels pour désigner l'attitude des capitalistes, voire même des termes qui sont des contradictions dans les termes, mais qui sont là pour tenir le présent et garantir l'avenir, comme ce croquelion fabriqué par les Chinois et qu'ils appellent le socialisme de marché. Idée théorisée extrêmement simple, et c'est toi qui m'as donné cette information, une formule de son Todol Živkov, qui a eu, quand il a commencé à faire des choses un petit peu autocritiques, a eu cette formule tout à fait intéressante, pas marxiste pour un clou, mais intéressante. Le socialisme
Socialisme.
est un enfant prématuré. Intéressant comme formule. Bon, alors, comme si on pouvait jouer avec l'histoire, et puis, bon, puis on va le mettre en couveuse, il reviendra après. Mais c'est l'idée chinoise. Nous sommes passés au socialisme trop vite, on a raté l'étape capitaliste, il nous en faut une, le meilleur moyen, c'est de la faire nous-mêmes. Elle sera mieux faite que les autres. Effectivement, elle est mieux faite que les autres. Aucun pays capitaliste n'oserait faire un capitalisme aussi sauvage et aussi terrifiant, sans corps intermédiaire, sans syndicat ni quoi que ce soit, que les Chinois aujourd'hui. Je voulais te demander d'abord, dans l'avenir, comment on écrit 89 maintenant? Le 30e anniversaire étant passé, une génération entière étant passée, est-ce que ça n'ouvre pas à certaines portes en disant, passons à autre chose, on a des nouvelles racines, on peut essayer autre chose? Et puis j'ai reformulé ça parce que ça me semblait plus en cadre avec ton travail, à savoir, est-ce qu'on peut écrire en Bulgarie aujourd'hui 189 en dehors
Wow.
de ce monde, cet ensemble représentatif 89. Est-ce qu'il n'est pas, est-ce que ce n'est pas un grand ensemble tellement englobant que toute autre représentation ou autre noyau se trouve à l'intérieur de cette forme de pensée ou de ce paramètre de pensée?
Écoute, en Bulgarie, là, maintenant, la nouvelle vague d'écrivains, on essaye. Mais en tout cas, moi, je ne pourrais pas. Je pense qu'on a encore tellement, tellement des questions et des structures toujours en place ou en place parce que ils étaient déjà détruites, alors les fantômes de ces structures. Comme par exemple un mausolée, on avait un mausolée au centre de Sofia. La narratrice Alexandra, elle raconte un peu dessus quand elle est à Moscou et elle admire le mausolée de Lénine. En Bulgarie, le mausolée, c'était le lieu de repos de la momie de Georgi Dimitrov, qui était le premier leader bulgare après la 44, après la guerre, dans le nouvel État socialiste bulgare. Alors, notre Lénine. Alors, le même style, mausolée, centre-ville, tout préservé, voilà le corps, lieu de hommage, on passait tous en défilé devant. Alors, le mausolée, bien sûr, Dimitrov, il était bien enterré. Tout de suite après les événements que je vous ai lus, peut-être le lendemain, il y avait l'enterrement en vitesse de la momie de Dimitrov quelque part. Le mausolée, il a resté genre toilette publique graffiti pendant un bon moment. Mais je pense que cette deuxième partie des années 90, il était bombé et détruit avec le dynamite, mais ça a pris, c'était un monument tellement costaud que. Ça a pris plusieurs jours de le faire bouger, non pas de tomber à miettes, mais de bouger comme ça. Alors, ils ont fini par le détruire finalement. Et là, le même discours aujourd'hui, et ça fait plusieurs années déjà à Sofia, c'est le monument de l'armée soviétique de l'armée rouge, centre-ville, pas très loin de où, là où il était le mausolée de Dinkov. L'armée soviétique libératrice, un énorme monument fait d'un fait par un sculpteur très connu à l'époque, vraiment quelque chose d'impressionnant. Alors là, maintenant, les discours et bien sûr la guerre entre les nouveaux politiciens. Alors, qui va faire quoi avec ce monument? Alors, est-ce qu'on le détruit comme le mausolée? Est-ce qu'on le rase et on le met dans un musée? Est-ce qu'on le, je ne sais pas, est-ce qu'on l'enterre? Est-ce qu'on le rend en russe? Est-ce que, voilà, bazar avec ça. Mais ça déclenche, si je commence à faire même une liste dans ma tête, ça déclenche des tas de questions du quotidien bulgare aujourd'hui qui sont liées à, bah attendez, pendant cette époque. Et voilà, pour répondre à ta question, Patrick, moi, je me vois pas écrire sans revenir justement en arrière, derrière cette ligne de démarcation de 10 novembre 1989. Et même dans le livre qui sort aujourd'hui, j'ai traduit une de mes nouvelles que j'ai écrite en bulgare pour mon dernier recueil en bulgare qui est sorti l'année dernière. Une nouvelle qui a vraiment rien à voir. Moi, j'ai pensé même qu'avec mon roman, avec la version bulgare de ce roman, que j'ai un peu saturé pour moi la marche en arrière pour justement pour que ça repose un peu, comme j'ai dit tout à l'heure. Apparemment pas. Apparemment, il a toujours. Et alors, je me suis mis à écrire une histoire d'un charmant punk supporteur de foot avec des cheveux longs qui s'appelle Judas, parce que il aime Judas Priest, voilà, c'est son groupe préféré. Alors c'est un personnage tellement
épouvantable et charismatique,
génial. Mais en fait la protagoniste, elle est folle amoureuse de lui, et voilà, tout d'un coup Judas m'attrapa par la main. Et nous courûmes ensemble au dehors jusqu'au parc de l'énorme monument de l'armée soviétique au centre-ville. Le parc avait tellement changé en si peu de temps. L'époque communiste où il était éclairé, gardé par les miliciens, avec les tulipes rouges poussant sur les parterres de fleurs bordées de pierres. C'était comme hier. Seules les délégations officielles et étrangères montaient jusqu'à la statue, en général pour déposer une gerbe rouge. Mais aujourd'hui, le parc nous appartenait. Des jeunes gens chouettes étaient partout pour faire du skateboard ou traîner, boire de la bière sur les bancs et fumer. Le fait qu'il n'y a plus de lumière la nuit n'était même pas une mauvaise chose. L'obscurité profonde rendait l'endroit encore plus intime et agréable. Même les immenses soldats de pierre semblaient plus détendus, comme si eux aussi traînaient avec nous. On avait le même âge en tout cas. Et les graffitis multicolores qui avaient commencé à apparaître sur le monument lui donnaient un air complètement moderne, comme dans les nouveaux vidéoclips de MTV. Et voilà, il a des détails comme ça que je le sens déjà venir même dans le roman que je suis en train d'écrire maintenant, qui est censé être mon deuxième roman en bulgare. Je le sens venir, il aura des détails comme ça exhumés d'avant 89, même si j'avais essayé de faire le pont. Le pont, je veux dire, avec entre mes premières écritures, là où j'ai commencé à vous expliquer tout à l'heure pour la traduction, mes premières nouvelles que j'ai commencé à écrire en anglais, ça racontait, je pense, la même chose. C'était toujours mon enfance socialiste et le Twilight Zone qui s'est passé après. quelque chose que nous, les adolescents, nous, on adorait parce que c'était les rêves de la liberté complète. Je peux même pas imaginer qu'est-ce qu'ils ont vécu, mes parents et mes grands-parents qui ont fait la queue pendant 6 heures le matin pour 2 pots de yaourt par famille. Alors, nous, les adolescents, on avait autre chose à faire. Et ce que j'ai écrit, ce qui a sorti en fait, c'était 2001, The Red Shorts, mon premier recueil de nouvelles. C'était un peu le ping-pong des deux côtés. Avant, après, avant, après. Comme si j'avais un peu peur moi-même de justement de cette 89-là. Quand on a eu une telle émotion incroyable comme ado, que là, hier ou avant-hier, comme il disait tout à l'heure Patrick, alors tous les adultes nous disent, bah oui, le communisme, la partie, l'URSS, frère, voilà, foulard rouge, marchez, là, faites ça. Et tout d'un coup, ah bah écoutez, ah, c'était mauvais, mais le lendemain, c'était mauvais. Alors on s'en débarrasse. Et nous, bien sûr, on se dit, bah ça alors, ok. Et voilà, je pense que c'était vraiment un vrai besoin pour moi comme auteur de justement de documenter, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, de documenter tout le 89, des années 80, toute la perestroïka. Tout ce qui a changé de ce qui était avant la perestroïka, tout ce que la perestroïka a laissé en place, tout ce qu'elle a changé. C'était un temps génial déjà des années 80. Mais franchement, une fois que je l'ai écrit, ça a devenu, ce roman, il a devenu un pont entre tout ce que je voulais dire de avant et après. Et voilà, c'était quelque chose de travailler avec Patrick. Le premier chose que je voulais en fait souligner, c'était le titre, parce que on a changé le titre. C'était suggéré d'abord par Patrick, après avec les éditeurs chez Actes Sud. Pourquoi? Parce que il comprenait pas mon titre bulgare. C'était un tel bulgarité, comme il dit Patrick. Que pour eux c'était alors là ça dit rien, on comprend rien. Alors je peux vous le dire en bulgare, c'était doklad na zelenata ameba za chimicheskiya moliv. Doklad, rapport na zelenata ameba, de l'amibe verte za chimicheskiya moliv, sur le crayon chimique. Le rapport de l'amibe verte sur le crayon chimique. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que...
Tête de l'éditeur.
Bah, et nous, on fait la co-traduction avec Patrick, toujours avec ce titre-là, l'amibe. On est en train de traduire l'amibe, l'amibe verte. Et tout d'un coup, et ben voilà. Alors, en bulgare, il sait tout de suite qu'un rapport... Une amibe verte et un crayon chimique, ce sont des choses d'enfants socialistes. Pourquoi? Parce que dans l'organisation des pionniers, on était obligé d'écrire des rapports qui nous ennuyaient à mort parce qu'il fallait les lire après devant tout le monde était censé écouter, on faisait que des bêtises. Enfin, c'est le rapport qu'on écrivait pour documenter les activités de l'organisation des pionniers. L'amibe verte, c'est sixth grade. Sixth grade, sixième classe, c'est pas comme ça en France, on compte en arrière. Mais c'est de la biologie. En fait, c'est l'euglène qui est verte, c'est pas l'amibe, mais elle s'est plantée et c'est pour ça que. Ça lui a fait plein de soucis dans le roman, cette Alexandra. Elle s'est trompée parce que elle a dit à sa prof de biologie que c'était l'amibe verte qui faisait la photosynthèse. En fait, elle avait pas du tout raison. Mais ça, c'est déjà sixth grade. Et après, il a le crayon chimique. Et le crayon chimique, oui, c'est toxique. Oui, c'est toxique, comme toutes les choses toxiques qu'on a vécues, on a bien vécues pendant cette époque. Alors, il était toxique, mais il n'était pas censé être toxique parce que c'était un crayon rouge et bleu. Alors, moitié rouge, moitié bleu. On taille des deux côtés. Et alors, une fois qu'on mélange avec un peu de l'eau et de salive, si on n'a pas de l'eau, ça devient une peinture à l'eau, mais indélébile, mais super utile, parce qu'on peut même faire un dessin avec le même crayon. On peut colorier, on peut tout faire. Bien sûr, ce crayon ne se trouve pas facilement parce qu'il a un déficit de tout ce qu'on aime et tout ce qu'on veut. On ne peut pas l'acheter parce que ça ne se vend pas, parce que c'est fini, parce que c'est épuisé, parce que il a plus de production, voilà. Mais c'était un crayon emblématique aussi pour tout le monde. Pendant l'époque du socialisme, c'était un crayon de rêve. Les mines se cassaient parce que les Bulgares, ils jetaient les boîtes de crayons comme ça dans les camions une fois qu'ils sont arrivés dans la librairie. Ils se rendaient même pas compte que ça casse des mines. On n'arrivait même pas à tailler un crayon correctement nulle part en Bulgarie. On collait les mines avec la colle qui marchait pas. Et les crayons chimiques, bien sûr, on avait les mines qui tombaient en permanence. Mais on s'est rendu compte que ce chewing-gum blanc, sans couleur et sans goût, on peut très bien le colorer parce que la salive, ça colorait la bouche. On s'est rendu compte que si on mâche la mine avec le chewing-gum, et après on crache bien sûr, mais après, une fois qu'on se lave la bouche, on a le chewing-gum rose ou bleu, encore plus incroyable,
Donc,
chewing-gum bleu. Ça veut dire que ça vient de l'Ouest. Ça vient de l'Ouest. Et on se met comme ça en le tirant, en faisant des bulles pour que tout le monde voit que nous, on a un truc de l'Ouest dans la bouche. Ça veut dire qu'on connaît quelqu'un qui est allé à l'Ouest, qui nous a acheté du chewing-gum, mais on est tellement branché et cool que voilà. Et alors, c'était ça, mais tout le monde savait. Les parents, ils étaient effrayés quand ils nous voyaient avec du chewing-gum coloré comme ça, que ça veut dire qu'on a mâché des mines toxiques. Voilà, c'était bien interdit, mais on s'en foutait. Et voilà, quand on dit le rapport de l'amibe verte sur le crayon chimique, mais tous les Bulgares, ils savent tout de suite. Oh là 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 là. No, notre enfance socialiste, il vaut mieux l'oublier. Des tas de choses que des bêtises. On passe à autre chose. Et ben voilà. Et c'était en fait ce changement déjà du titre qui me fait. Ben je ne sais pas, ça me fait rire, Patrick, une fois que je pensais un peu plus dessus, parce que non seulement c'était rose, comme ça, sur la couverture, c'était rose, mais exactement chewing-gum crayon chimique. C'est ce couleur que ça donnait. Ça me fait tellement plaisir, un truc de hubba-bubba, bubblegum. Et c'est en fait Patrick, comme coréanologue, ce qui que l'intéressait dans mon roman au départ, c'était une Bulgare qui a. D'accord, elle a écrit un roman sur la Corée du Nord. Il avait, dans des années 80, des adolescents de tous les pays communistes qui scandalisaient Pyongyang. Et moi, ça fait 50 ans que je m'occupe de cette péninsule, toute sa littérature et tout. Je ne savais pas. Mais donne-moi ce roman. Et alors, pour lui, en fait, comme mon traducteur, et comme on a travaillé, on a traduisait ensemble, moi je voyais que en fait, Patrick, il découvre la Bulgarie socialiste à travers ce voyage en Corée du Nord. Il s'est rendu compte que c'est pas un roman sur la Corée du Nord parce que c'est les Bulgares qui voyagent. C'est les lunettes bulgares qu'il porte, les lunettes d'enfant en plus. Mais c'était surtout avec toutes les similarités qu'il avait déjà avec les Soviétiques, avec tous les pays de l'Europe de l'Est. Il y a des Cubains, il y a même un Français dans le roman, le correctif absolu. Mais c'était un grand monde socialiste. Le club internationaliste des camarades, là où Alexandra est censée être le président de ce club dans son école, C'était un truc comme ça. C'était un grand monde. Alors, on est tous amis. On est tous. Mais franchement, qu'est-ce qui nous intéressait? C'est par exemple, qui a le t-shirt le plus chouette? Et franchement, vous avez vu ce mec avec les jeans? Où est-ce qu'il a acheté ça? Où est-ce qu'on peut s'acheter nous aussi des jeans? Mince, c'est que ça qui nous intéressait. Et voilà, c'est justement pour revenir à ta question, est-ce qu'on peut écrire? J'espère bien. Là, cette année, en Bulgarie, le livre de l'année, c'était une anthologie avec 25, 20, 26 auteurs qui s'appelle Les histoires des années 90. Le 30e anniversaire du chute du communisme en Bulgarie, c'était vraiment. On a ramassé plein d'auteurs. J'ai écrit une histoire dedans, moi aussi. On commence à peine, ma génération, à se poser des questions sur les années 90, juste après le chute du mur. Et là, je me rends compte la quantité de questions qu'on a encore à se poser et de les écrire. Alors j'espère bien qu'un jour on passe à autre chose, mais je pense que pour l'instant, on va écrire toujours plein de 89, plein d'histoires de 89.
Un tout petit point pour après continuer le ping-pong question-réponse, mais avec vous tous. Il y a un point d'arrivée qui est le grand leader doit venir vous voir, qui est un slogan qu'on trouve partout en Corée du Nord, dans les communes populaires, les ex-communes populaires, pour exhorter la population, et qui ressemble beaucoup à des visites royales au 19e siècle. Attention! Attention, le grand leader va venir vous voir. Donc, soyez tout le temps prêt. Comme vous disiez, dans certains couvents, tu ne sais pas à quelle heure, tu ne sais pas quand sera ton heure va arriver, tu ne sais pas pour qui sonne le glas, etc. Sois toujours prêt pour paraître devant le Seigneur. Là, c'est le Seigneur qui va venir. Et bien, ceux qui sont les plus en avance, ils disent, nous attendons la visite du grand leader. Donc, ça me semblait un slogan qui était très, très, très historiquement marqué et qui marquait le grand leader. Le problème, c'est qu'effectivement, ça, c'est coréen. La totalité, paratextuelle, pour parler vite, de l'ensemble, est coréenne. Alors, est-ce que je le referais comme ça aujourd'hui, complètement, pour une réédition en poche, je me gratterais l'occiput un petit peu plus longtemps, mais ça partait quand même d'un élément, d'une réflexion théorique qu'on développe dans Shakespeare à mal aux dents et la pratique du traduire, qui est d'essayer d'expliquer aux étudiants en formation, mais de façon générale, l'écart pour un traducteur, ce que ça veut dire, il ne s'agit pas de faire une théorie comme ça qui se promène, entre ce qui a été appelé le texte, y compris le texte des formalistes, et notre sociotexte. Et aussi, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose, le texte au sens matériel, ça, et le livre, le volume, le machin, l'objet. La vieille formule de Barthes humoristique, le texte, c'est ce qui tient dans le langage, le livre, c'est ce qui tient dans la main. Bon, c'est une boutade, on ne va pas très loin avec ça, mais ça distingue des choses. Le traducteur, X, Y, Z, à qui on confie une œuvre qu'il l'a choisie, part d'un truc comme ça. Et on lui demande l'arrivée à un autre truc à peu près du même genre, qui va déjà être sensiblement différent. En passant par son territoire, c'est ça. Autrement dit, il doit traduire ça avec considérablement moins de moyens expressifs et signifiants, qui sont des lieux de pouvoir et de discussion avec un éditeur, la préface, la quatrième, la couverture, la typo, on parlait de typo l'autre jour, la mise en page, les illustrations éventuelles, notes en bas de page, pas de notes en bas de page, bref, quantité d'éléments qui sont le texte, et je ne parle que des éléments matériels, mais on peut aussi renvoyer à la connaissance, à l'horizon culturel du lecteur d'origine, ce qu'il sait du texte, l'amibe, le crayon vert, truc d'œil, c'est pas la peine de lui expliquer, il comprend tout de suite. Tous ces éléments sont là. Et de façon plus diffuse, tout ce qui renvoie de façon cohérente, enfin, tout ce en quoi ce texte est l'organisation cohérente de toute la narrativité sociale. Et de l'autre côté, vous allez fabriquer un objet qui va avoir les mêmes effets, qui va renvoyer à une culture, mais celle du lectorat d'arrivée, qui va renvoyer à un autre monde culturel, à des habitudes, à un autre horizon d'attente, tous ces éléments-là, sur lesquels, en général, vous n'avez absolument rien à dire. Ce livre que vous avez déjà fait avec des choses, avec moins de moyens qu'au départ, autrement dit, en tant que traducteur, vous n'avez que 80% du matériel à votre disposition, et ce sera donné à des lecteurs sous la forme 100% nouvelle. Ça va fabriquer du sens, ça va inéluctablement fabriquer du sens, sinon on ne se battrait pas pour être bien placé chez les libraires. Il faudrait être débile sinon. On sait très bien que ça fabrique quelque chose. Mais cette chose-là, vous ne pouvez pas l'inclure dans l'ensemble des éléments avec lesquels vous aboutissez à une traduction. On dit toujours que la traduction, une traduction contrainte, est une écriture contrainte, c'est le traducteur qui est contraint. Le traducteur doit faire 100 avec 100, mais on ne lui donne que 80. Démerde-toi. Plus les interdits. Alors, ça dépend des pays. Pas de notes en bas de page, sinon tu seras pendu en place publique. La honte du traducteur. Je vais appeler ta maman. Des horreurs. Qu'est-ce qu'on fait? Si on a un tout petit peu, je continue à piquer à tous mes voisins, un tout petit peu de capital symbolique dans le métier, on peut dire à l'éditeur, hé, oh, laisse-moi au moins un peu de place pour m'étaler et dire des choses. Je vais faire la couverture, je vais proposer les graphismes, je vais ou non mettre préface, postface, note, je vais m'occuper des commerciaux, je vais faire les pitchs, je vais faire le site internet. C'est la traduction. C'est de la socio-traduction, si vous voulez, ou du socio-traduire, si on voulait qu'on étende nos concepts au plus loin. On ne peut pas traduire autrement, mais on doit traduire avec moins dans le livre. Parce que c'est aussi, tout ça, c'est un texte, sociotexte, c'est aussi un livre, mais c'est aussi une marchandise. Et en tant que marchandise, il y a des conséquences techniques, matérielles, intratextuelles, que vous ne pouvez pas contrôler entièrement. C'est une lutte de pouvoir avec un éditeur. Il arrive qu'il y ait des éditeurs extrêmement intelligents. Par accident, et qui se sont trompés d'étage, mais ça peut se faire. Et donc, il a fallu signifier. Le nom de l'auteur n'était pas encore aussi mondialement connu qu'il l'est et qu'il le sera encore plus demain. Un titre coréen ou un titre bulgare n'aurait pas atteint sa cible avec une efficacité évidente. Bref, une auteure d'un pays inconnu, inexistant, qui parle d'un autre pays inexistant. Il fallait s'accrocher en quelque sorte ce qu'on aurait refusé, ce que je refuserais pour mon bouquin français en France, je l'ai cherché là, c'est-à-dire quel est le lieu commun le plus évident pour déclencher choréité. Qu'est-ce que je vais trouver? Une affiche politique. Il n'y a pas d'autre image, enfin, vous en connaissez peut-être, il n'y a pas, il y a rien qui, il n'y a pas d'autre image qui fasse représentation. D'où la coréanisation aussi du titre. Bon, la dernière fois qu'on l'a présenté, sur l'affiche, il y avait écrit
Ah oui.
Vladimir Minkov, un grand
Non,
leader
je
du
l'ai vu.
pouvoir, journal d'un voyage en Corée du Nord.
Carnet de voyage.
Carnet de
Carnet
voyage.
de voyage.
On était
Voilà.
au rez-de-chaussée, ça s'est bien passé. Mais sinon, elle sautait par la fenêtre.
Parce que, oui, parce que, en effet, c'est un carnet de voyage, c'est un journal intime. Mais
Professionnalisé.
oui, bien sûr que. Ah là là, s'il se passait des choses comme ça, non, non, franchement, non. Alors, c'était. Oui, un peu sur la traduction. Dernière anecdote, et après, je pense qu'on vous laisse quelques questions. Shakespeare a mal aux dents. Bizarrement, quand j'ai connu Patrick, il était en train justement de finir Shakespeare a mal aux dents avec son collègue Marie Vrina, qui est la plus grande traductrice, le plus connue de la littérature bulgare en France, en français. Alors, un œuvre, Shakespeare a mal aux dents, un œuvre qui a déjà mis ensemble le coréen et
Et
cette coréanité et le bulgare, la littérature bulgare, et surtout plein d'exemples de la littérature contemporaine et des jeux de traduction que moi je trouvais tellement intéressants. Et voilà. Mais à la fin, c'est en fait le coréanologue et la bulgare qui traduisaient ensemble à travers l'anglais.
Voilà, on a essayé de répondre à la question de Derrida. Le passé, quand il est passé, où est-il passé? Ça, on peut aller très très loin, ou ça peut faire un très beau sujet pour le bac de philo.
Maintenant... Merci beaucoup.